TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Nous sommes avec Anne et Mathilde en compagnie de nos amis, de nos nouveaux amis, le couple d'évangélistes Iliana et Franck Alexandre. C'est bon, yes.
Les amis, salut tout le monde.
Franck Alexandre, copain de Parole de femme, voilà.
Ouais. C'est génial, c'est un titre formidable, ça.
Ouais,
y a des gens qui paieraient très cher pour ça. En avez-vous conscience?
C'est vrai. Internet.
Donc, est-ce que vous allez toujours bien?
Oui.
On est prêts pour une nouvelle journée ensemble?
Oui.
Excellent. Bah, en tout cas, merci encore à vous d'être venus nous voir, de participer à ces émissions et de nous partager vos expériences de vie, votre parcours, parce que je pense qu'on entend beaucoup de choses sur à propos de votre ministère, des choses absolument extraordinaires, tous ces gens qui se convertissent, des gens qui sont délivrés, des gens qui sont guéris, et c'est absolument formidable, mais je trouve ça aussi très intéressant de découvrir un petit peu l'envers du décor, comment vous avez réussi à naviguer entre toutes les périodes de votre vie, de votre ministère, de votre mariage, 30 ans de ministère, 30 ans de mariage, comme on en a parlé depuis le début de la semaine, et puis de voir l'impact et le rôle déterminant que vous avez eu depuis 30 ans, finalement, Liliana. Puis aujourd'hui, on va parler de la femme éprouvée et comment le courage peut vraiment émerger chez une femme. Et encore une fois, vous allez nous dire, j'en suis sûre, à quel point le courage de votre femme vous a émerveillé.
C'est vrai. Et je parlais avec ma fille au téléphone cette semaine et je lui disais, voilà, on va être interviewé dans des émissions, on va parler de notre parcours, du côté des coulisses de notre ministère, mais on risque certainement de parler de toi. Parce que je lui dis, sois pas surprise, en tout cas, est-ce que tu es d'accord? Elle me dit, oui, papa, tu peux y aller. Je lui dis, parce que les gens, ils ont une vision tellement idyllique du ministère où les gens qui sont sur le devant de la scène, dès qu'on est sur un podium ou à l'affiche ou même à l'écran, comme dans vos émissions, on a l'impression que tout va bien, que ces gens, leur vie se déroule comme un long fleuve tranquille et qu'il n'y a pas de difficultés. Mais au contraire, nous sommes des gens tout à fait ordinaires, avec un Dieu extraordinaire qui nous appelle à accomplir une œuvre. Il nous donne sa puissance pour l'accomplir. Mais en tant que personne ordinaire, on vit aussi des temps parfois difficile.
Est-ce qu'on fait un petit portrait aujourd'hui?
Ouais, j'aimerais bien parler de cette dame, une veuve qui était endettée dans 2 Rois chapitre 4, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi, dis-moi? Qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Cette histoire me parle d'une femme tout à fait, je dirais, normale, qui passe malheureusement par des épreuves. Et dans la vie normale, dans la vie ordinaire, on passe tous par des épreuves, soit le deuil, ce soit la maladie, des difficultés financières, mais elle a pu faire l'expérience de la provision divine. Et je veux vraiment encourager, avec Liliana, on veut encourager ceux qui nous écoutent, qui peut-être sont couchés sur des lits de maladie, peut-être croulent sous les dettes, sont dans des situations où les créanciers frappent même à la porte. Ils sont dans l'épreuve, on veut leur dire que c'est possible de relever la tête. Et nous sommes passés par des épreuves qui ont duré plusieurs années pour certaines d'entre elles. Et on a, à un moment, on a compris qu'il fallait aller chercher les vases et les présenter en grand nombre devant le Seigneur. Et Dieu était fidèle. Il les a remplis. Il a pourvu.
Vous parliez de votre fille. Et justement, avec votre fille, vous avez vécu une situation relativement dramatique et déchirante. Ouais. Et donc, Liliana, si vous voulez peut-être nous raconter.
Oui, je veux bien. Johanna avait 16 ans quand elle a fait sa première fugue.
Oui.
J'ai cru que j'allais mourir. C'est un sentiment qui vous envahit entièrement. Vous ne pouvez pas le contrôler. Et ce que j'ai ressenti, ça a été tellement fort, comme un déchirement. Et mon époux s'en souvient, hein, quand il m'a vu, il a cru vraiment que j'allais en mourir. Et il y a des douleurs qui apparaissent. Cette boule au ventre qui vous quitte pas et qui vous rappelle bien qu'il y a un gros souci. Perte de cheveux, les insomnies, parce que vous vous inquiétez tellement pour votre fille que vous endormez plus la nuit. Et vous avez des tas de scénarios dans votre tête. Et vous pensez au pire, hein, forcément.
Ah oui.
Et tout ça, ben, je voudrais dire aussi que c'est un sentiment qui est normal pour toutes celles qui passent par l'épreuve avec un enfant. Dites-vous que ce que vous allez ressentir, c'est tout à fait normal. Mais ce qui ne sera pas normal, c'est de rester dans cet état-là. Mmh. Alors, je peux vous dire que j'ai eu des hauts et des bas. Hein. Ça n'a pas toujours été facile, mais je me suis accrochée au Seigneur. Et ma force, je l'ai trouvée en Dieu. Et Dieu m'a permis de traverser cette épreuve qui a duré quand même 6 ans. Mmh. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a eu des hauts, des bas. Ça n'a pas toujours été très, très facile. Mais je me suis accrochée parce que je sais que Dieu a des promesses et que rien ne peut se mettre au travers de la volonté de Dieu. Mmh. Et donc, on s'est vraiment mis à genoux avec Franck.
Oui, c'était extrêmement violent, de toute façon, cette épreuve.
C'était très violent.
On rentre du travail à 17h15, 17h30 du bureau, où on travaille aussi avec notre équipe, et puis on voit un courrier qui est sur la table. On se demande qu'est-ce que c'est que ce papier, et puis au début, on tourne un peu autour, on se dit, mais c'est quoi ? Puis on s'en approche, et puis on voit qu'en fait, c'est un message. Et en lisant ce message, on découvre que notre fille nous apprend qu'elle vient de quitter la maison. Elle a à peine 16 ans. Et dedans, en même temps, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle essayait de nous rassurer, de nous dire « c'est pas de votre faute, c'est pas, surtout ne vous faites pas du mal, mais je dois partir, il faut que je parte, etc. » Donc pour nous, c'était un choc. Et à ce moment précis, quand j'ai vu les cris, les hurlements de ma femme, ça a été un moment très fort. Et j'ai cru même qu'elle allait mourir devant moi. C'était vraiment un moment violent, un moment d'une extrême violence. Et
vraiment, c'est ce déchirement que j'ai ressenti dans tout mon être.
Oui. Et on s'attend pas à ça quand on
s'attend. C'est violent.
On s'attend pas à ça parce qu'on on prie pour nos enfants. On a un fils et une fille. On les aime de la même manière. On essaie de pas faire des différences. Ils habitent sous le même toit. Mais on peut habiter sous le même toit, mais ne pas voir le même horizon. Mmh. Et c'est ce qui se passait en fait dans son cœur. Et on ne met pas au monde des chrétiens. Je voudrais vraiment encourager ceux qui nous écoutent, qui sont dans le ministère. Et j'ai connu bien des collègues, bien des évangélistes, des pasteurs, des gens qui ont des ministères magnifiques et qui ont été éprouvés violemment dans leur famille avec leurs enfants. Mmh. Et là, je les encourage à persévérer. Parce qu'on a aussi désespéré à un certain moment.
Ah ben oui.
Mais on priait, on a jamais cessé de prier. On aurait pu aussi la rejeter, mais on a voulu préserver ce lien. Mmh.
C'est vrai, on aurait pu la rejeter, mais on ne l'a jamais fait parce que dans l'éducation qu'on a donnée à nos enfants, on leur a toujours dit qu'on serait toujours présent pour eux, que l'amour que Dieu manifeste envers ses enfants, ben, c'est pas un amour qui a des mesures en fonction de la réaction qu'on peut avoir, mais que c'est un amour vrai et que nous, l'amour qu'on a pour elle, c'est un amour vrai et qu'on l'aimerait quoi qu'il arrive. Notre amour ne changerait pas. Et il fallait à ce moment-là lui montrer aussi qu'on l'aimait, mais qu'on n'aimait pas ce qu'elle faisait.
De façon inconditionnelle.
Exactement, c'est comme l'amour du Père que vous avez manifesté.
Exactement. Et on lui a toujours montré cet amour, mais on lui a toujours aussi expliqué qu'on n'était pas d'accord avec ce qu'elle faisait. Et ce qui m'a fait aussi tenir dans cette épreuve, parce que 6 ans, c'est vraiment très long. Ouais. Et je pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps. Et je suppliais Dieu tous les jours. Je dis, mais Seigneur, mais là, en cet instant, tu peux arrêter cette situation-là. Tu as le pouvoir sur toute chose. Et non. Il y avait le temps de Dieu aussi pour notre fille. Et du coup, j'ai appris à voir dans l'invisible. Mmh. À m'accrocher à ce que Dieu pouvait faire dans l'invisible. Mmh. Ce que mes yeux ne voyaient pas. Mmh. Et ça m'a permis aussi de lever un peu la tête. Et je bénis Dieu aussi pour ces femmes que Dieu a mis sur mon chemin, qu'il a mis aussi à mes côtés, qui ont passé aussi par certaines épreuves avec leurs enfants, qui ont été un réconfort pour moi et qui m'ont aussi épaulée quand...
Parce que vous n'avez pas vécu non plus cette épreuve toute seule, parce que on en avait un petit peu parlé, mais tout de suite, dès que c'est arrivé, Vous en avez parlé aussi à votre régisseur.
Oui, tout à fait. On n'a pas eu honte. Mm-hmm. Pour nous, c'était hors de question qu'on ait honte de cette situation. C'est notre fille. Mm-hmm. Et on a besoin de partager un besoin tel que celui-là pour avoir une armée qui prie aussi avec nous. Et si on n'a pas une armée qui prie avec nous, ben c'est difficile. On peut combattre seul, mais c'est beaucoup plus facile avec quelqu'un.
Est-ce qu'elle était absente, partie 6 années consécutives ou c'était des allers-retours
Des allers-retours.
Ah, OK.
Des allers-retours, oui. Mais jamais avec une réelle conviction de péché.
OK, donc très difficile.
Oui, elle repartait après dans sa vie. En fait, la violence, elle était morale dès le départ. Et immédiatement, c'était une violence physique. L'impact était émotionnel, physique et immédiatement spirituel derrière. Parce que le diable, lui, nous a attaqués. Il nous a attaqués pour nous dire tout de suite tous les scénarios possibles, mais en même temps, sur ce que nous sommes en tant que ministère. Parce qu'on est attaqué immédiatement dans ce qu'on présente, dans ce qu'on prêche, et on prêche parfois même de façon un peu idéale, la vie de couple, la vie de famille. Donc là, on était attaqué aussi dans ce que nous étions, et l'ennemi voulait nous fermer la bouche dans notre ministère, nous empêcher de continuer à exercer, tel point que pendant quelques minutes, j'ai même été tenté de dire, mais avec une telle situation, qu'est-ce que je peux apporter aux familles de mon Église? Quel exemple, quel modèle vais-je laisser? Et le Saint-Esprit m'a restauré, m'a consolé en me disant, mais ne fais pas ce cadeau au diable. Ne lui fais pas ce cadeau-là. Et tout à coup, de la Bible est venue l'histoire du fils prodigue, qui est une analogie, une parabole qui nous parle de l'amour du Père et du monde. Et Dieu n'a pas rejeté le monde. Et c'est comme si Dieu me disait, mais si moi je n'ai pas à rejeter le monde et que j'attends avec impatience derrière la fenêtre, je scrute l'horizon attendant le retour du fils prodigue, toi aussi tu vas devoir apprendre ça, mais elle reviendra. Alors c'est là on était libérés, on a appris à montrer aussi notre vulnérabilité. Et c'est cette face que nous avons dans notre vie de gens ordinaires qui servons un Dieu extraordinaire. Et finalement, on a été stupéfaits de voir que les gens avaient compassion de nous. Pourquoi? Parce que les gens, nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui sont dans nos assemblées, vivent aussi les mêmes épreuves. Et nous pouvons les rejoindre quand nous prêchons après, parce que nous sommes capables de les comprendre.
C'est ça. Et vous dites que ça vous a traversé quelques minutes, le fait, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Est-ce que vous avez été aussi tenté peut-être d'arrêter de voyager, d'aller annoncer l'évangile un peu partout et au monde entier?
Mais oui, pendant ces quelques minutes-là, tout était remis en question. Tout était remis en question.
Mais après, au cours des 6 années...
Non, dès que la victoire a été prise, c'était fini. C'était fini. On avait compris qu'on ne ferait pas ce cadeau. Et puis, on a dit, on avance. Quels que soient peut-être les ragots qui pourront courir sur notre couple, de toute façon, on le vit tout le temps, d'une manière ou d'une autre. Dès qu'on est un personnage public de par ce fait, nous sommes de toute façon critiqués. Il faut l'accepter. Et puis, on a accepté de payer aussi ce prix-là. Mais on vivait aussi dans cette espérance qu'elle reviendrait. Et puis j'ai autour de moi aussi des ministères qui ont vécu ça et dont les enfants sont revenus. Et là aussi, en écoutant des témoignages de pasteurs qui avaient été durement éprouvés avec leurs enfants et que la gloire de Dieu s'était manifestée, donc tous ces témoignages ont suscité aussi de l'espérance chez nous, en se disant, mais si c'est possible pour eux, c'est possible aussi pour nous. Et si c'est possible pour nous, c'est possible pour tous ceux qui nous écoutent.
C'est ça. J'allais dire, c'est même pas... je veux dire, le but du malin, c'est d'essayer par tous les moyens de nous discréditer. Et souvent, on est assez solide, mais nos enfants sont plus faibles. Et il sait qu'en s'attaquant à nos enfants, il va nous attaquer directement. Et il va amener du discrédit aussi par rapport à notre enseignement. Parce que nos enfants, ça doit être le reflet de notre enseignement.
C'est ça.
Et c'est tellement une cible facile de s'attaquer à un enfant adolescent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles de serviteurs et de chrétiens fidèles qui le vivent, parce que nos enfants sont des cibles. Et là, je veux dire aux mères de tenir ferme et de prier pour leurs enfants tout le temps et d'élever une muraille de protection, parce que si l'ennemi peut pas vous attaquer, il s'attaquera à vos enfants. Alors tenez ferme et puis mettez une muraille de protection autour de vos enfants.
Et vous, Liliana, qui est une femme de prière, est-ce qu'au cours de ces 6 années, vous avez vécu des moments de prière particuliers où vous sentiez peut-être que votre fille, elle avait besoin à ce moment-là de prière et d'intercession et que ça a fait finalement la différence et que ça l'a gardée?
Oh que oui. Pour la simple raison, c'est que j'étais poussée à lui envoyer des SMS à certains moments de la journée ou de la soirée. Et plus tard, ma fille m'a dit, maman, à chaque fois que tu m'as envoyé ce SMS, c'était le moment où j'en avais le plus besoin. Mmh. Donc, il faut aussi avoir cette sensibilité. Et je pense que l'amour qu'on a pour notre enfant nous pousse aussi à vraiment tout remettre entre les mains de Dieu. Et dire, Seigneur, je ne peux pas tout contrôler. Je ne peux pas...
Je ne sais pas où elle est.
Je ne sais pas où elle est. Mais je sais que ton regard... Il est sur elle parce qu'on te l'a confiée à sa naissance.
Amen.
Et à partir de là, tu te dis, bon, faut faire confiance au Seigneur jusqu'au bout. Et puis, j'aimerais aussi encourager les sœurs à aller écouter d'autres témoignages, d'autres sœurs qui ont passé par ces épreuves-là. Parce que ça fait du bien, parce qu'on se dit, voilà, elles en sont sorties. C'est un combat qui n'est pas resté. Mais ça s'est arrêté à un moment donné. Mmh. Et pour nous, ça s'est arrêté aussi à un moment donné parce que Dieu a permis que notre fille revienne au Seigneur.
Racontez quand même parce qu'on va terminer le témoignage.
Ouais, ouais.
La note positive, la bonne
note. Comment votre fille est revenue que c'était...
Elle a revécu un moment très difficile dans sa vie. Elle nous a fait appel à nous. Et nous étions bien sûr présents pour elle.
Elle savait qu'elle pouvait compter sur nous.
Elle savait qu'elle pouvait compter sur nous, ouais, tout à fait. Et elle était chez nous le samedi, dimanche matin, c'est l'église.
On lui a proposé de venir.
Et on lui a proposé de venir. Et c'est son papa qui prêchait.
Ce matin-là, c'était très, très fort en émotion.
Très, très fort.
Parce que j'ai prêché, mais j'étais dans un état second, en fait. J'étais ailleurs, sachant que ma fille était dans les rangs. Et j'ai lancé un appel à la fin, et puis des gens sont venus en grand nombre devant. Mais j'ai vu ma fille, tout à coup, se lever droit devant sa chaise en titubant. C'était... Mais j'ai réalisé que le Saint-Esprit était en train de se ruer sur elle. C'était vraiment très fort dans ce moment-là. Elle-même, après, quand elle me l'a dit, elle m'a dit, mais c'était un moment extrêmement puissant dans cette relation avec Dieu qui se manifestait pour elle, à son intention, de façon tellement, tellement surnaturelle. Mmh. Et elle s'est levée en titubant, elle est venue vers l'avant. Et j'ai l'habitude de prier pour tous les gens qui viennent devant, mais là, ce jour-là, je n'ai prié que pour elle. Et mon collègue pasteur qui était là, qui est pasteur de l'Assemblée, il m'a vu filer sur ma fille. Tous les cadres de l'Église sont occupés de tous les gens, mais là, ce matin-là, c'était un appel qui était pour elle et c'est son papa qui est venu prier pour elle. Mmh. C'était le papa qui la prenait dans ses bras. Donc wow. C'était un moment vraiment extraordinaire, plein d'émotions et qui était le début de son retour à Dieu, de son retour à Dieu.
Et vous avez assisté à ça, Lily?
Ah, que oui. Quand j'ai vu Johanna dans les bras de son papa, j'ai dit, mais quelle récompense aussi pour lui.
Mm-hmm.
De pouvoir avoir sa fille dans ses bras et de pouvoir lui-même prier pour elle. Et elle, de resserrer son papa dans les bras comme elle faisait avant qu'elle fasse toute sa crise. Parce que elle ne le faisait plus. Il y avait une distance qui s'était installée quand même. Hein. On ne peut pas dire qu'elle nous sautait dans les bras. Mais là, de revoir ce lien d'amour entre un papa et une maman.
Oh, moi, je ne pouvais même pas prier avec des mots. Je ne pouvais que pleurer. Ma prière était mes larmes. Mm. C'était un moment énorme, énorme.
Reconnaissance.
Oui. C'est un petit peu émouvant, quand même.
Ouais.
Mais Dieu est bon parce qu'il a tout orchestré.
Ouais.
Et ce qu'on a pu rêver d'un retour à Dieu d'un enfant, quand on le vit... C'est tellement glorieux, c'est tellement glorieux. Parce qu'à un moment, des fois, on se décourage, mais on reprend courage. On se décourage, on reprend courage. Mmh. Et on reconfesse les paroles de Dieu. Elle est comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. On a confessé de nombreuses paroles pour elle, en sa faveur. Et on a refusé la fatalité. On a refusé la fatalité. On a dit non, elle est au Seigneur, elle reviendra à Dieu. Et on a combattu, on n'a jamais lâché.
Avant qu'on poursuive l'émission, on va pouvoir peut-être aussi parler d'un autre témoignage, mais je pense que ce sera important qu'on puisse prier pour des personnes qui passent exactement par cette situation. Liliana, est-ce que vous pourriez accompagner ses parents dans la prière?
Tout à fait. Seigneur, je veux vraiment te bénir, te rendre grâce, parce que Seigneur, avec toi, il n'y a pas de fatalité. Mm. Quand nous passons par cette épreuve d'un enfant qui prend le mauvais chemin, nous savons que toi, ton regard est sur cet enfant. Et Seigneur, je te prie pour ces familles, pour ces mamans, pour ces papas qui passent, Seigneur, par cette épreuve. Et nous savons, Seigneur, tout ce que ça peut engendrer comme souffrance, comme désarroi. Mmh. Mais nous savons une chose, Seigneur, c'est qu'avec toi, nous avons la victoire. Et je te prie, Seigneur, afin que mes frères et sœurs qui passent par cette épreuve remportent la victoire en sachant que tu es celui qui est au contrôle, que tu es celui qui a la vue sur leurs enfants. Et nous te prions vraiment pour cette jeunesse, Seigneur, afin qu'elle te connaisse et afin qu'elle s'approche de toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur.
Amen.
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 Amen. Amen. Amen. On se réjouit pour tous ces enfants qui rentrent à la Amen. Maison, comme votre fille est rentrée à la maison. Et puis, j'aimerais qu'on puisse parler aussi d'un moment où vous avez vécu un moment personnel de découragement. Vous vous sentiez un petit peu inutile. Et puis, je pense que c'est un sentiment que malheureusement, beaucoup de femmes ont déjà ressenti, de se demander finalement à quoi je sers, est-ce que vraiment... ma vie vaut quelque chose, et puis tous ces sentiments qui viennent saper notre joie. Et vous êtes passée aussi par là, Liliana.
Exactement, ce que tu as dit, c'est exactement ce que j'ai vécu. Franck partait beaucoup en mission, et quand il revenait, il était tout plein de joie. Il me disait, oh, j'ai vécu ça. Ok, super. Et moi?
J'ai prié, la vaisselle ne s'est pas faite toute seule, aucun miracle.
Exactement. Voilà, j'avais les deux enfants, j'avais mon emploi, mais j'avais vraiment ce sentiment que je ne servais à rien, que Dieu ne me voyait pas et que j'étais vraiment inexistante aux yeux de Dieu et qu'il n'y avait que Franck qui existait aux yeux de Dieu. C'est son serviteur qui va au combat, c'est son serviteur qui est sur le terrain. Toi, tu es à la maison, tu ne sers à rien. Et j'avais cette habitude, c'est de coucher d'abord les enfants et après aller dans la cuisine, me faire mon petit café et de tremper un petit gâteau, ça s'appelle un spéculoos, et c'est le seul gâteau que j'aime tremper dans mon café. Et je verse toujours mes larmes devant Dieu en prenant ce café avec ce gâteau, et j'étais toujours en train de me répandre devant Dieu en disant, Seigneur, mais je comprends pas, à quoi je sers, dis-moi, mais révèle-moi, quel est mon rôle en tant que femme, en tant qu'épouse d'évangéliste, je ne comprends pas, j'ai vraiment ce sentiment de ne servir à rien. Et c'était comme ça tous les soirs, ce café, ce petit spéculoos. Et un jour, je vais rejoindre Franck sous un chapiteau.
Et j'imagine personne n'était au courant de...
Absolument pas. C'était mon petit secret dans ma cuisine. Et pendant cette réunion, à un moment donné, on a fait des groupes de prières. Et je me retrouve dans un groupe et il y a une sœur qui donne une parole et qui dit « Je te vois dans ta cuisine quand tu pleures en buvant ton café ». Mais je te vois, tu es importante à mes yeux, tu es ma servante. À ce moment-là, j'ai dit, oh Seigneur, mais t'es merveilleux. Et j'ai attendu que ça se termine, et je vais voir cette sœur, et j'ai dit, tu sais ce que tu as dit, c'est exactement ce que je vis. Et là, elle me dit, mais tu sais, elle dit, j'ai pas tout dit, j'ai pas osé. Ah, je dis, ah bon? Alors moi, je fais mine de rien. Et puis elle me dit, je te vois en train de tremper un petit gâteau pas plus haut que ça et tout marron. Et là, je réalise qu'effectivement, ce petit gâteau, c'est mon spéculoos. Donc, ça confirmait davantage comment Dieu me voit, mais jusqu'au petit détail, le spéculoos. Il n'y a pas deux Liliana dans le monde qui boit son café avec un spéculoos.
En pleurant.
En pleurant, en plus.
Café le soir, en plus.
Ouais, et ça m'a fait vraiment un
bien. Ça n'aide pas à dormir.
Non. C'est pour pleurer plus longtemps.
Voilà, et j'ai réalisé que j'avais de la conscience aux yeux de Dieu. Et que mon rôle de... Ça m'a guéri parce que j'ai réalisé que mon rôle de maman, en tant que femme de maison, m'occuper de mes enfants, m'occuper de mon foyer pour que mon époux parte, l'esprit tranquille. Parce que si votre époux part en mission en sachant que sa femme n'est pas bien dans sa peau, qu'elle vit mal la solitude, que ses enfants, c'est catastrophique, comment il peut être tranquille pour faire ce que Dieu lui demande? Et j'ai réalisé à ce moment-là que mon rôle de maman, étant à la maison, être bien dans ma peau et comprendre que c'était ma place pour un temps, parce que les enfants grandissent après. Eh ben, c'est merveilleux.
Mais elle a vraiment grandi dans son rôle de maîtresse de maison, parce que maintenant, quand je rentre avec toutes les nouvelles, je reviens de mission, le Seigneur a manifesté sa gloire. Elle me dit, oui chérie, super, vide-moi le lave-vaisselle, s'il te plaît.
Là, vous comprenez que vous êtes de retour à la maison.
Voilà, yes.
Je pense qu'Anne et moi, on est bien capables de s'identifier à vous, Liliana. On a eu des enfants qui ont été jeunes, nos maris dans le ministère et tout ça. Et souvent, on se pose la question, mais à quoi je sers, hein, tout comme vous? Et puis, le Seigneur a su me rassurer. Je sais que tu as déjà témoigné, Anne, qu'on est à la bonne place au bon moment pour cette saison de notre vie.
Exactement.
Et si on n'était pas là, ces gardiennes du foyer, on est comme des... on garde le fort pendant que notre mari est à l'œuvre et on est là pour élever les enfants, pour prier pour lui, pour tenir les choses. Et il serait incapable sans ça de poursuivre, de faire l'œuvre, d'obéir à ce que Dieu leur demande de faire. Donc, toutes celles qui nous écoutent, si vous êtes dans votre cuisine et vous faites toutes ces choses, vous êtes dans la volonté de Dieu, si Dieu vous a appelé à être là, et vous servez vraiment à faire avancer l'œuvre et le royaume de Dieu, quoi que les gens disent, quoi
et
que
vous pensez. Et vous, Pasteur Franck, juste rapidement, est-ce que vous doutiez que votre femme vivait ce genre de choses?
Non. Je n'imaginais pas qu'elle pleurait seule le soir. Non, pourtant, on partageait les choses ensemble, mais il y a des choses peut-être par pudeur, on cache parfois, qu'on n'ose pas peut-être partager. Mm-hmm. Et ça m'a ému de réaliser que Dieu la voyait, que le regard de Dieu était sur elle, qu'il voyait ses larmes. Et pour moi, ça m'a vraiment parlé que l'œil de Dieu est sur chacun des moments qu'on vit à l'intérieur de notre maison. Et c'est vrai qu'elle versait ses larmes de son côté. Moi, je versais les miennes.
Ah, wow.
Du mien.
D'accord. Okay.
Parce que quand on est évangéliste et qu'on voyage beaucoup, on verse aussi les siennes. Parce que la famille nous manque. Mais bon, la consolation est aussi dans le Seigneur. Et c'est vrai que je rentre aussi en fanfaronnant pour « Gloire à Dieu, tout va bien, ton mari, t'inquiète pas, il va bien, il est heureux, il est là où il est. » Mais on a aussi, chacun, on a une seule chair. Mm-hmm. Donc on s'impatiente d'être toujours ensemble. Mm-hmm. Mais maintenant, on voyage ensemble parce que c'est une nouvelle saison, les enfants ont pris leur envol. Et puis on circule dans le monde tous les deux.
Et vous faites ça bien.
Ouais, on essaye avec la grâce de Dieu.
C'est ça, c'est que c'était pour une saison. Et puis c'était vraiment important, surtout avec l'histoire que vous avez vécue avec votre fille. Je pense que finalement, ça avait quand même posé des bonnes fondations au niveau de votre famille. C'était des années qui étaient très importantes, qui ont permis aussi son retour, qui ont permis de développer cette relation d'amour pleinement avec elle. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Ces expériences très personnelles. Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas toujours les dessous du ministère, que ça peut être parfois douloureux, qu'il y a des souffrances personnelles, que le ministère peut être douloureux aussi. Mais on garde le sourire, non pas parce qu'on est hypocrite, mais parce qu'on veut servir le Seigneur. Tellement et qu'on se dit, y a du travail, on va le faire. Et Dieu prend soin de nous, Dieu a pris soin de vous, et c'est un grand encouragement. Et je suis sûre que beaucoup de femmes ont été encouragées aujourd'hui à travers vos témoignages, En parole de femme. Donc on se dit à demain pour un prochain épisode de Parole de femme.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Parole de femme sur emcitv.com.